Ciné B, la chronique du cinéma. Ah. Chers auditeurs, aujourd'hui vous ne me voyez pas, mais j'ai une cravate. On m'a dit avant de commencer l'émission, pense à Claude Chabrol. Alors j'ai mis une cravate. Chabrol avait toujours des cravates. Je ne fume pas la pipe, donc vous m'excuserez. Claude Chabrol nous a quittés, qui était un immense réalisateur, et qui a fait des bons, des moyens et des mauvais films. C'est génial. Il faut revoir Roger Hanin, tout ça. Allez-y, hein, c'est une démarche qui n'est pas évidente. Mais allez voir Les Bonnes Femmes. Vous, Les Bonnes Femmes, allez voir Les Bonnes Femmes. Vous verrez. Vous serez peut-être un peu moins nunuche après, un peu moins naïve. C'est pour rire. À propos de femmes, je suis allé voir Tourner. Tourner de Mathieu Amalric, son, je crois, quatrième film. C'est vraiment très très bien. Dépêchez-vous d'aller le voir. Il passe à l'Alhambra à 20h et au César, à deux horaires. Lorsque je suis sorti de Tourner, J'ai été pris d'une sensation de violence bizarre, aussi sourde et tenace, ténue. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je savais, n'ayant pas bu, ne m'étant pas drogué, que cela venait bien évidemment du film, de Tourner. En rentrant à la maison, j'ai pris les cahiers du cinéma, ce qu'il en reste, et je suis tombé sur l'article de Dominique Pagny, « Feindre la maîtrise ». Vous vous doutez que feindre la maîtrise n'est pas la totale maîtrise, et que donc, quelque part, le film est très critiqué. Comme le film est très critiqué, je vais vous lire la fin de l'article des Cahiers du cinéma. Si le film d'Amalric semble maîtrisé, qui sait en revanche à quel moment la certitude s'installa qu'il ne lui échapperait plus ? A-t-il anticipé le terme ultime de son récit ? Cette déglingue ? Cette panique ? Cette fuite des événements que la vitesse de course du personnage ne pouvait plus surpasser ? Quand Amalric a-t-il eu ce projet de mettre en scène cet essoufflement croissant ? Cet aller-retour entre le rêve d'un film et sa labilité insaisissable, confusion entre un scénario et le destin même du film ? On ne le saura pas. On pense au tourment de Cocteau. Puisque ces mystères dépassent Mathieu Amalric, il feint d'en être l'organisateur. Ce serait la morale acrobatique de son cinéma. C'est ce qu'écrit Dominique Pagny. Si vous le voulez bien, chers auditeurs, nous allons répondre à Dominique Pagny. En lui disant « Cher Dominique, il y a une famille qui a été oubliée dans votre critique. Je ne parle pas de celle du cinéma, la véritable, avec l'apparition d'André Labarthe, ou d'autres familles, puisqu'il y en a plein. Je vous parle de la famille que vous avez oubliée. Pourtant, elle est exposée du générique du début au générique de la fin du film. Cette famille, qui commence donc dès la première séquence, c'est un des membres de la famille qui, de sa loge, entend en off la voix des autres membres de la famille. Et elle participe à leur joie en riant toute seule devant la caméra de la tournure de cet esprit indispensable, celui qui détonne en résolvant ses problèmes. La famille du rock'n'roll. Pourtant, cette famille, elle nous accompagne avec son sonore, son esprit. Cette famille envahit le film, se l'accapare. Une adepte de la famille, dès la première séquence, entend de sa loge les voix off de son groupe et participe à leur joie en riant toute seule pour nous, spectateurs. Famille à l'écoute de l'autre, indispensable à la communion. Une famille qui contraste. Rock'n'roll, solidaire, acceptant le nouveau venu sans concertation, en riant simplement de son arrivée. Cette famille qui parcourt le film, dont j'ai senti la violence sourde, bien évidemment, elle commence avec le générique de début et finit sur un cri avec le générique de fin, ou plutôt commence avec le cri de la fin. Comme si, finalement, il fallait crier à nouveau pour exister. Est-ce que cela est feindre la maîtrise que de crier à nouveau pour exister? Crier à nouveau pour exister, oui. Si le générique de fin avec du rock'n'roll suit. La chronique du cinéma. Ah. Pour en revenir au cahier du cinéma, alors, rapidement, La couverture du cahier numéro 659, donc de septembre de ce mois, est autour des nouvelles utopies du cinéma français, avec en couverture un mauvais film. Mais il s'avère que les cahiers du cinéma ont écrit dans ce numéro 16 pages sur les mauvais films. Alors je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur les bons, donc ils parlent des mauvais. C'est très bizarre comme démarche. C'est un peu comme si moi je vous racontais que des films qui sont mauvais pendant des heures, puisqu'il y a quand même 16 pages. Voilà, donc j'aimerais savoir, j'aimerais comprendre, je ne sais pas ce que vous en dites, vous, chers auditeurs. Les cahiers du cinéma qui sont redevenus jeunes et plutôt journalistes qu'historiens posent la question à Amalric, comment avez-vous fait pour vous débarrasser de Cassavetes? Alors la réponse d'Amalric est très bien. Je vais vite vous la lire, c'est juste pour vous donner envie de voir le film, c'est tout. Mais dépêchez-vous. Ah. Quelqu'un a oublié son téléphone, donc je me permets de le... On reproche à ce film, ou on l'encense, en pensant à un autre film, par rapport au show surtout, Killing of the China's Bookie, le meurtre d'un bookmaker chinois. Et c'est vrai qu'on sent que ce personnage de producteur se trimballe à ce côté casavétien. Et Amalric a trouvé vraiment la jolie façon de se débarrasser de Cassavetes. Il est évident que le personnage a vu trop de films américains des années 70. Quand il est avec les filles, c'est un peu un personnage, et quand il est à Paris, il a l'air déguisé. On voit bien qu'il joue. Donc, se débarrasser de Cassavetes en se disant, c'est Joachim, c'est le producteur, qui se prend pour Cosmo Vitelli, le protagoniste de Meurtre d'un bookmaker chinois. Et comme ça, eux peuvent continuer à faire leur film. Voilà, c'est pour ce genre de raison que vraiment il faut aller voir ce film, évidemment pour tout le reste. Film essentiellement rock'n'roll. C'est pas pour les vieux. Les années 70. Les années 70, c'est un morceau de Duke Ellington. Le voici. Ciné B, la chronique du cinéma A. We'll be right back. Ciné B, la chronique du cinéma A. 1970, c'est la décennie de tous les dangers. Le cinéma est subversif, permissif. Il fait ce qu'il veut. Dans les années 70, Wes Craven, vous savez Wes Craven, le Freddy 1 et 6, le diptyque. Eh bien, Wes Craven, je crois que c'était en 74, a commencé à faire son premier film, qui est un film pornographique. Et un film alimentaire, surtout. Un ami à lui lui a demandé, il était déjà scénariste, d'écrire un scénario qui soit le plus horrible possible. Si le scénario est vraiment horrible, il pourra faire le film. Donc il écrit un scénario dont ensuite on a fait un remake il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, qui s'appelle La maison au fond du jardin à gauche ou à droite. Le titre est à vérifier. Mais c'est facile à trouver, il date de 76, je pense. Voilà, les années 70, c'est ça. Ces deux jeunes filles qui se retrouvent dans la campagne, qui vont voir un concert rock'n'roll, qui boivent une bouteille de whisky. Les parents sont en train de boire de l'armagnac ou du gros cognac avec des glaçons, comme font souvent les Américains. C'est un peu comme Dallas, c'est filmé en 16 mm. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que c'est que ça? Puis, on apprend très rapidement que quatre individus sont sortis de prison et d'une prison très sévère où on met que des gens vraiment, vraiment désaxés. On apprend que une fille qui sortie de cette qui s'est évadée de cette prison aurait on l'aurait vue, on ne le voit pas mais on le dit. Ça c'est très intéressant dans ces films là économie de moyens, on ne voit pas mais on dit. Comment on dit? On croit en ce qu'on dit. Donc quelqu'un l'a vu tuer un chien à main nue. Voilà pour la première. Le deuxième, lui, c'est un colosse qui, depuis qu'il a son enfant, depuis que cet enfant doit avoir 10 ou 12 ans, il le drogue, il le shoot à l'héroïne. Et comme ça, il est sûr que cet enfant restera avec lui et sera sous sa responsabilité. Ah, chers auditeurs, ce n'est que le début d'un des scénarios des années 70s. Allez voir ce film, La dernière maison, sur la gauche. C'est, à mon avis, un des films les plus représentatifs, les plus grands guignolesques qui soient. Bien évidemment, on n'y croit pas, et c'est parce qu'on n'y croit pas qu'on peut nous montrer toute l'horreur qu'a écrit Wes Craven. Voilà, les années 70, moi je suis un peu, nous, à mon âge, les enfants des années 70. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que les adolescents doivent aller voir « Mes petites amoureuses » de Jean Eustache, qui date, je crois, de 73. Les mêmes adolescents peuvent aller voir « Méga Vixen », toujours des années 70. Deux façons de voir l'amour un peu différentes. Je cligne des yeux. Mais surtout, les années 70, c'est une certaine Amérique qui d'ailleurs est assez lisière 60-70. Les représentants sont Monty Hellman, voyez Macadam à deux voix, la copie en cinéma, je crois que les droits sont gelés, donc c'est assez difficile, mais même à la télévision, c'est toujours un témoin. La télé, ça sert à ça, le témoin, à regarder pour voir si ça tient et si on peut le voir en vrai plus tard. Et comme les années 70, c'est les années réelles, certains cinéastes on fait un appel à ce réel. Et avec ce réel, ils inventent un nouveau cinéma d'action. Ces gens-là sont Monty Hellman, Michael Cimino, Bud Buttigieg, Sam Peckinpah, Gordon Douglas, Burt Kennedy, Terrence Malick, John Milius et d'autres, William Friedkin, Leslie Stevens. Pourquoi ces cinéastes? D'abord parce qu'ils ont tous fait jouer un très grand acteur qui s'appelait Warren Oates. Rappelez-vous de « Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia » de Sam Peckinpah. Celui qui apporte la tête, c'est Warren Oates. Dans Macadam à deux voix, il joue le rôle d'un dandy. D'un dandy à la couleur. Le film se passe à peu près sur 4 jours et 4 nuits. Et il a donc 4 pulls en V de couleurs différentes. Un vert, un jaune. Chaque jour, il expose son pull, sa couleur. Et donc la couleur que nous propose ce cinéma-là. C'est très joli. Macadam à deux voix, c'est la poursuite, la compétition, la rapidité. Aller vite avec une voiture qui a de l'essence. Et battre le voisin pour continuer. C'est le Mad Max cool de ces années-là, mais pourtant très rock'n'roll. Je pense que ça aussi, c'est un des plus beaux films qui soit. Macadam à deux voix de Monty Hellman. Monty Hellman, William Wellman. Ils se ressemblent. William Wellman est un très 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 grand réalisateur. Et il était à l'enterrement d'Ernst Lubitsch. Je vous dis ça parce qu'en ce moment, à la Cinémathèque française, il y a une intégrale Ernst Lubitsch. Un immense réalisateur, un des plus grands. Aujourd'hui, je parle de beaucoup de grands réalisateurs. Et un immense producteur. Les deux, en général. Donc Ernst Lubitsch, la Cinémathèque française lui rend hommage et montre l'intégrale des films. Je ne vais pas vous dire aller à Paris à la Cinémathèque française voir ses films. Il passe en témoin à la télévision le dimanche, TCM je crois, ou Ciné Classique. Pour ceux qui ont les chaînes, bah, c'est déjà ça. Je crois que l'Institut de l'Image peut-être montrera quelques copies en décembre. Si c'est le cas, joyeux Noël. Des films extraordinaires. Shop Around the Corner, Trouble in Paradise, Haute Pègre. Thank you. la chronique du cinéma. Alors, comme mon objectif, c'est de vous faire aller au cinéma et que Lubitsch, bah, en ce moment, c'est pas chez nous, je vous propose d'aller voir, bien évidemment, La Palme de Rêve, La Palme d'Or. Le film de Joy, comme l'appellent les Américains, le film de Pichat Pong, Raiseta Cool. Magnifique film où il faut se laisser aller. Mais se laisser aller différemment. C'est-à-dire que vous ne vous laissez pas aller comme lorsque vous allez voir un divertissement. Puisque vous ne faites même pas le passage entre votre laisser-aller et le divertissement. C'est le propre du divertissement. Mais plutôt, vous vous laissez aller à quelque chose que, au départ, peut-être vous ne comprenez pas. Peut-être parce que c'est trop simple. Et si vous arrivez à vous laisser aller tout simplement sans réfléchir, en entendant la suite, ben, vous aurez peut-être plusieurs vies. On regarde des fantômes, qui sont les fantômes, les réincarnations comme ça. Et finalement, nous, quand on va au cinéma, qu'est-ce qu'on fait? Quand on voit Lubitsch, on voit des fantômes. Ben là, vous allez voir cela. C'est drôlement contemporain. Voilà, vous savez, il y a les films qu'on va voir, et c'est pas sûr qu'ils vous acceptent. Il y a les films... qui vous regardent et c'est pas sûr que vous les supportiez, enfin c'est bizarre. Là non, c'est très simple. Vous allez voir un film, vous oubliez, vous essayez de vous laisser aller, mais en gardant les yeux ouverts, et vous rêvez, éveillé. C'est ce qu'il y a de plus beau en ce moment. Vous voyez comme quoi la Palme d'Or, ça marche. Cannes est assez merveilleux pour ça. La Thaïlande est en guerre, on donne la Palme d'Or au film thaïlandais, politiquement correct. Oui, mais on est à Cannes. Il s'avère que la Palme d'Or est fabuleuse. Mais il faut dire que cette année-là, quand même, c'était Tim Burton, qui était le maître de la secte. Même si elle appartient aux frères Lumière au départ. Et c'est marrant que, justement, ce jeune homme, qui est Tim Burton, avec toute la cruauté qui le caractérise, nous offre cette Palme d'Or. Et c'est marrant aussi parce que, à la fois, on a un vrai auteur, que cela, qui n'est pas empêché de faire des mauvais films avec son Alice au Pays des Merveilles. C'est dommage, mais puisqu'il nous donne la Palme d'Or, il se rattrape d'une certaine façon. Voilà. Ciné B, la chronique du cinéma.